C'est 23.
Un condensé des meilleurs moments de Debout les comiques en format balado. Debout les comiques, juste le meilleur.
Debout, debout.
Parlons vaccin un petit peu parce qu'on est en attente ici de l'approbation du vaccin de Johnson & Johnson qui a une efficacité moindre que ceux qu'on connaît déjà qui sont Moderna et Pfizer BioNTech, eux qui ont des taux d'efficacité de 91-94%. Celui-là serait plus bas que ça, mais il y aurait plein d'avantages. Procédé de conservation plus simple. Une seule dose suffirait à protéger à 60-quelques%, mais ce serait assez selon les... Et il faut le donner à ceux qui ont 65 ans et moins. Donc, ça viserait... On attend donc l'homologation par Santé Canada de ce quatrième vaccin qui s'ajouterait dans la panoplie des outils qu'on a pour combattre le virus. On se croise les doigts. On espère que ça va se faire. On espère qu'on va en avoir après ça parce que ça, c'est un autre combat.
Ouais, c'est ça. Parce que là, l'autre affaire avec Johnson & Johnson, c'est que tout le monde commence à dire « Ouais, mais là, s'il est fabriqué aux États-Unis puis qu'ils font du protectionnisme, les vaccins vont rester aux États-Unis, ils vont vacciner leur gang puis après, ils vont les envoyer ailleurs. »
Et ce protectionnisme-là, j'espère qu'on va s'en rappeler dans nos traités internationaux
subséquents. Pour le futur, mettons?
Ben, mettons. Ouais, ça serait pas mettons. Mettons, quand c'est le temps de jouer pour eux autres, j'en trouve quelques-uns qui sont égoïstes un petit peu.
On reste dans la catégorie vaccin, quelque chose qui nous a fait rire ce matin, ben, cette semaine, en fait, qui concerne la Caroline du Nord. Si vous avez fumé au moins 100 cigarettes puis que vous habitez en Caroline du Nord, ben, vous pourriez être vacciné là, là. Ça pourrait être une bonne raison.
Fait que vous passez devant la file, littéralement.
Oui, c'est le ministre de la Santé qui a annoncé ça mardi. C'est que dès le 24 mars, ils vont pouvoir vacciner le groupe 4. Le groupe 4, c'est les 16 à 64 ans, mais qui ont un haut risque d'attraper la COVID ou une forme virulente de la COVID. Donc, dans cette catégorie-là, on retrouve du monde qui ont un surpoids, des gens qui ont des maladies chroniques, l'hypertension, ceux qui sont atteints d'un cancer, et aussi les gens qui, dans leur vie, ont fumé l'équivalent de 4 paquets. Donc, dans toute leur vie, t'aurais fumé, là, tu sais, au secondaire, t'en aurais fumé un au mois de juin, puis t'en aurais fumé 3 autres à travers les années.
Mais moi, mettons, j'ai arrêté de fumer il y a 5 ans, mettons, je serais éligible parce que j'étais un fumeur heavy smoker.
Tu irais, toi. Toi, il dirait oui, Monsieur Cloutier, vous êtes là.
Mais tu sais, c'est même pareil pour les gens qui... Tu sais, il y a toujours des fumeurs sociales, là, dans une soirée bien arrosée avec de l'alcool, qui fument une cigarette une fois de temps en temps, sans soirée. C'est fait, voilà.
Exactement. Les gens trouvent ça complètement absurde. Oui. Tous les gens rient. Il y a même des gens qui ont partagé des images de personnes qui fumaient plusieurs cigarettes à la fois. Vous avez probablement vu ces mèmes-là. Et d'autres disent, mais comment que je vais faire, moi, pour prouver que j'ai fumé sans cigarette?
C'est vrai.
C'est un peu absurde, mais ceci dit, ce qu'ils disent, c'est que ça va tellement bien présentement la vaccination aux États-Unis que d'ici la fin mai, ils vont avoir vacciné tout le monde. C'est ce qu'ils prétendent. Donc, même si t'as fumé sans cigarette ou que t'en as pas fumé, puis que tu réussis à faire croire, tu sais, ça change pas grand chose en termes de.
Mais peut-être que quelqu'un qui fume beaucoup là est peut-être plus à risque de développer. Je sais pas.
Mais c'est sûr, la cigarette affecte directement les poumons.
Les poumons.
On s'entend que la COVID affecte directement les poumons. Fait que tu sais, il avait dit dès le début de la COVID que toutes les personnes qui avaient des maladies pulmonaires ou encore qui avaient des soucis par rapport à leurs poumons étaient plus susceptibles d'avoir des problèmes par mal.
Mais on s'entend que c'est contre-intuitif en tabarouette là. On n'a pas l'impression.
C'est comme sur les récompenses. C'est vrai, hein?
T'as raison.
C'est comme, tu sais...
En même temps, j'ai payé le stade, man.
T'as-tu fumé sans cigarette, oui? Yes! Vaccin!
Ceci dit, c'est chiant pour la personne. Édouard, il dit, moi, je suis rendu à 98 cigarettes.
Oh, pauvre Édouard. Force-toi à fumer deux. T'as aujourd'hui une grosse journée.
Le podcast Debout les comiques.
C'est le moment d'Astroval ce matin. Valérie qui va nous parler d'esthétique astrologique.
100% superficielle ce matin parce que oui, il y a un lien entre votre signe astrologique et la beauté. Okay. Êtes-vous esthétiquement beau ou pas? C'est ce que l'astrologie peut nous dire.
On dirait que c'est la première fois depuis que j'ai rencontré Astroval au mois d'août. C'est la première fois que je suis semi-intéressé par le classement, sauf s'il m'avantage.
Voyons voir ce que ça dit. Voulez-vous que je commence par les laids ou par les beaux?
Commence par les beaux.
Commence par les beaux.
Signe le plus laid pour finir, ça va être quand même.
Alors, le signe le plus beau, c'est le Verseau. On dit que si on prend un échantillon de 500 millions de Verseaux, 100% de ces personnes-là seront belles. Elles sont la définition même de leur beauté. On dit que les gens peuvent même se prosterner devant la perfection que représente leur visage. Ce serait égal aux dieux et aux déesses.
Visiblement, il n'y a aucun Verseau en studio présentement.
Ouais. c'est très blessant que tu penses ça, mais...
Je sais que toi, t'es scorpion.
Mais t'as raison, maudit. Ça me dérange. Numéro 2, le signe astrologique le plus beau, poisson.
C'est mon père.
On dit que le niveau de beauté du poisson est presque égal au Verseau, mais il a moins d'aura, il a moins de charme, il est moins capable de charmer sans, mettons, son côté esthétique. On dit que les poissons sont magnifiques et dégagent beaucoup de charme malgré le fait qu'ils sont très timides et qu'ils peuvent potentiellement devenir des mannequins.
Oh. Ah ouais, hein?
C'est le futur du poisson.
Mon père ressemble à Richard Gere.
Poissonne?
C'est vrai, ton père est très beau.
Ouais.
Ton père est très, très beau, ton père.
Troisième position des signes astrologiques.
Est-ce que c'est malaisant?
C'est drôle, hein, quand même. Des signes les plus beaux?
Oui, le troisième plus beau.
Le lion.
Ah non.
Le lion est très beau, mais le gros point fort reste le fait qu'ils sont coquets. Ils sont mignons. Et en plus, ils aiment ça, les petits câlins, les petits bisous. Puis quand on les voit, on aime ça leur faire des petits câlins puis des petits bisous parce qu'ils aiment ça, parce que c'est le roi de la jungle puis il en veut de l'attention. Lui.
Mon ancienne blonde, Liliane, était très belle aussi. Effectivement, oui. Je suis d'accord à date avec le classement.
Alors là, j'y vais très rapidement pour pouvoir aller vers les plus laids.
Ouais.
Quatrième position, Gémeaux.
Okay.
Cinquième position, Cancer.
Okay.
Ah, c'est moi ça.
Sixième position, Balance.
Okay.
Septième position, Scorpion. Martin, ça va pas notre
affaire? On est comme. Ben, moi, je suis ascendant Balance, fait que je me ressauve un petit peu.
On est équilibré, mais laid.
Oui.
Huitième, Capricorne. Neuvième, Taureau. Dixième, Bélier. Onze, Sagittaire. On dit que les Sagittaires, c'est un signe ingrat chez la personne. Ils sont pas beaux. C'est des faire-valoir. On dit que le Sagittaire, dans son groupe d'amis, c'est sûr et certain que c'est lui qui se fait pas cruiser au bar. Le Sagittaire a potentiellement des cheveux gras. Et c'est ce qu'on dit dans Astroval. Et je termine avec...
Fred, t'es quel signe, toi? T'es Sagittaire?
C'est
scorpion,
toi
aussi. Okay. OK.
Et je termine avec le signe le plus laid.
Toi, Bernard, t'es quel signe? T'es Capricorne.
Capricorne? Ah, Capricorne, t'étais huitième.
Okay.
T'es collé sur le scorpion. C'est pas super avantageux.
Le plus laid. Ah non, le plus laid, je le sais, c'est lequel?
Je suis la plus belle en studio.
Arrête,
c'est ça, Jacques?
Ben oui.
Et le plus laid, la Vierge.
C'est vrai que c'est laid.
On dit que la Vierge...
D'où l'expression, c'est laid en Vierge.
Dans toutes les causes des guerres dans le monde... Il y a une vierge.
Ben voyons!
Je te dis, c'est ce qu'on dit. Puis là, on dit qu'elles attirent carrément la haine autour d'elles.
Ben voyons!
On dit que voir le visage d'une vierge, c'est ressentir une tristesse mélangée à de la folie un peu.
C'est
mais
bien
tu dis qu'à chaque fois qu'il y a une guerre, il y a une vierge, c'est-tu ça l'expression « une face à fesser dedans »?
C'est la vierge.
Ça commence de même.
Ça a été créé pour la vierge. Elle est donc officiellement le signe astrologique le plus laid du zodiac.
Et on sait que Joselle Fida, la fille de Mathurin Séguin, est probablement vierge.
C'est assurément vierge.
Parce que c'est sa fille
vierge.
La plus laide. C'est y a quelqu'un... Jonathan Patry qui dit « merci, je suis vierge ».
C'est important que je le redise, là, mais ça veut dire, selon ça, Astroval, je suis la plus belle en studio. Je pense que vous l'aviez pas entendu.
Est-ce que tu veux qu'on l'enregistre et qu'on le passe en boucle lundi quand Billy va être de retour?
Ça pourrait être ta sonnerie aussi, si tu veux. Hein? Ça compense ton caractère de marde.
Le podcast Debout les comiques.
Ben, je vous en ai parlé là, il y a une couple de mois. Là, tu sais, je vous avais dit, hey, c'est super, moi je reste pas loin du parc La Fontaine.
Ouais.
Cette année, il va y avoir des trails de ski de fond.
Ben oui.
Okay. Il va y avoir un beau parcours de ski de fond, tout ça. Et dès novembre, déjà il était trop tard, mais dès novembre, j'ai voulu me trouver une paire de ski de fond en me disant, hey, moi là, cet hiver,
je le fais.
Je vais aller faire du ski de fond.
T'en avais parlé, même si c'était compliqué d'en trouver tellement le marché était saturé.
Exactement, Martin, j'en ai jamais trouvé.
Ah, non.
Depuis novembre, non, j'étais, tu sais, nommé les marketplaces, la poubelle du ski, là, là. Et...
T'aurais eu le temps d'en faire une paire, hein, tu sais.
Et cette semaine, j'ai reçu une paire de skis que j'avais réussi
Comment
à commander.
T'as fait?
Ben, Sport Opus 440, finalement, ils ont réussi.
Ça
il y
même.
Avait une deuxième, tu sais, des commandes
des arrivages
tardives.
Qui arrivent,
mais... Et donc, je l'ai eu, ce qui fait que cette semaine, j'ai commencé à aller faire du ski de fond.
Au parc La Fontaine, qui est quand même plat, là. C'est pas un terrain hyper accident.
C'est très, très plat.
On dirait que les gens pourraient qu'ils voient ta face, là. T'es comme heureuse et gênée.
Sérieusement, c'est donc bien difficile.
C'est sûr que c'est ça.
Ce qu'ils font.
Ben oui.
Sérieusement, je suis raquée de partout. Je suis allée trois fois cette semaine et je suis raquée au zen, au cou, les bras, les épaules en arrière. J'ai mal partout. Mais ce qui est le plus humiliant, c'est que
c'est tough,
dès
non?
ma première run, je suis partie. Et là, évidemment, il y a des endroits où les gens marchent. Donc,
oui.
Donc parfois, ta piste est interrompue parce que c'est des... Alors, il y a des petites buttes, si tu veux. Tu passes à travers là où les gens marchent, puis là, tu remontes la petite butte pour retourner sur ta trail. Et j'ai piqué une plonge, les amis.
Oh non!
Mardi, j'ai piqué une plonge. Et depuis, j'ai mal au cou, comme si j'avais fait un accident, comme si un char...
Un whiplash, que tu appelles, là? Comme un coup de fouet avec la tête.
Exactement,
là.
Martin. Ouais. Comme si un char m'était rentré dans le, ouais, dans le cul, puis que mon cou avait subi un choc, là. J'ai mal, 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 mal. Mais on s'entend. J'ai juste fait du ski de fond au parc La Fontaine.
Non, mais c'est tough, le ski de fond, là. Puis on part. En fait, là, on fait plein d'erreurs. Moi, je pense, on fait l'erreur de sous-estimer la difficulté. C'est un sport intense, là. Quand on peut le faire pépère, on s'entend, là. Je peux faire le terrain derrière la maison puis pas être raqué du tout. Mais quand t'embarques d'une trail, tu veux te rendre un peu au bout de la trail ou faire un tour, tu comprends?
Non, je croise d'autres gens qui sont dans la fluidité. Moi, je suis gênée du son que j'aimais. Tu sais, je suis là. Mon Dieu, Tammy, il va falloir que tu rentres en symbiose avec le bide du ski de fond, là. Non, moi, je suis brusque. Ça marche pas,
moi,
mon affaire.
Moi, je te bats, par exemple, sur le raquet par rapport, là.
OK.
Deux affaires. Un moment donné, moi, je suis allé jouer aux quilles.
OK.
T'as raqué des quilles, Martin?
Le lendemain, je te parle d'il y a 20 ans, là. J'avais, tu sais, l'émission Les Quilles à RDS. J'étais allé faire ça. Écoute, j'avais de la misère à marcher. L'espèce de split qu'on fait en pitchant. Si tu fais ça, puis t'es pas habitué de faire ce geste-là, ça tire dans les jambes, là.
Attends. Fred Caillou joue au quilles.
Ben oui.
Si t'es pas capable de jouer au quilles, ça va être tranquille, là.
Je bats ça. Depuis le début de l'hiver, j'ai mal à un pied. Et je me lève souvent ici. Tu as dû remarquer, je boite.
Oui,
je boite d'une jambe, j'ai de la misère à marcher parce que mon pied droit me fait mal.
Ah, je pensais que tu répétais ton imitation de Terry Fox.
Exact. Un peu ça, mais quand même, j'ai trouvé cette semaine pourquoi.
OK.
Quand je passe la souffleuse, à un moment donné, j'ai peur que les pieds me partent en forçant après, puis je porte sur le pied droit.
Tu compenses.
Puis je compense et je crispe mon pied droit. Fait que moi, quand je fais ma patinoire, j'ai peur que les pieds me partent, c'est de la glace en dessous. Fait que écoute, je compense par mon pied droit qui force sur lui-même. Hey, faut-tu être pas en forme, honnêtement? Être raqué dans l'arche du pied. C'était... Un pied, pas les deux.
C'était pas toi le gars qui était raqué parce que tu portais ton porte-monnaie à une poche précise d'il y a une couple d'années à Debout les comiques?
Oui, sur mon cœur.
Il portait son porte-monnaie sur son cœur dans une petite poche. Et il avait une douleur au cœur, il était certain qu'il était cardiaque. C'est...
Dans mon char, je fais tellement de route que ma ceinture puis mon côte, ça squeezait là. Puis à un moment donné, mon chum Luc, que je salue, Luc Desiel, qui est doc à Candiac, il arrive puis il dit, pas à Candiac, il est à Châteauguay ou à Ville-Sainte-Catherine, il dit, Martin, il dit...
Arrête de niaiser.
C'est postural. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire? C'est peut-être dans ta posture, dans la manière que tu t'assois. Je retourne chez nous après la consultation, je lui texte, j'ai dit, Luc, je pense que je l'ai trouvé. Mon portefeuille est exactement... où ça me fait mal.
C'est niaiseux, hein?
Le coin du portefeuille me rentrait en dessous du pectoral, pis ça faisait mal.
C'est complètement... Valérie morte de rire.
OK,
ça y est, Valérie.
Hey, toi, attention, t'as 34, là? T'as 34?
Ça s'en vient, hein? C'est une pente descendante.
C'est, tu sais quand ça va t'arriver?
Quand?
Tantôt. Bon, ouais, ça arrive vite en tabarouette à être raqué. Hey, on a de l'air de...
Mais bref, j'arrêterai pas de faire du ski de fond.
T'as-tu commencé à regarder pour la Via des Tilleuls ou quoi de même pour te placer, Tammy? Quoi, moi, j'ai commencé.
J'ai oublié de te dire, mange la marde.
Préarrangements sont faits, moi, en tout cas.
C'est drôle, mange la marde.
T'es comique? De retour après ceci.
96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
Allume-moi maintenant.
C'est le Grand Variété ce dimanche à TVA de Star Academy à 19h30 plus précisément. Je voulais vous parler des artistes musicaux parce que le line-up est assez solide. Merci pour ce dimanche.
C'est-tu vrai, Bleu Jeans Bleu?
Oui, c'est vrai, Bleu Jeans Bleu. On va souligner la fin de la semaine de relâche avec un gigantesque medley avec plein d'artistes qui vont plaire aux jeunes. Bleu Jeans Bleu, Ludovic Bourgeois, Sarah May, Alicia Moffett vont être là pour participer à ce medley-là. Sinon, on va aussi faire un numéro sur les grandes voix féminines de la chanson. C'est Véronique Dicard qui va être en charge de ce numéro-là. Fait qu'il va avoir, tu sais, on nous promet des succès genre de Diane Dufresne, mais aussi de Whitney Houston. It's not right, but it's okay.
je vois Queenie chanter ça, là,
je pense que ça marche au bout, là. Les grandes voix féminines, en plus, je trouve que les filles de Starac ont des très, très, très belles voix.
Tout à fait.
Un genre de charisme sur la scène, là, je pense que ça va bien fonctionner. Et sinon, pour la première fois, une des profs va être sur la scène de Star Academy. C'est Ariane Moffat qui va être là. Elle avait présenté la semaine dernière le titre de son disque qui s'appelait Incarna, qui sort le 26 mars. Fait que là, elle va être là pour interpréter des nouvelles chansons.
Parfois, c'est tout ce que le cœur attend de l'autre. De quoi se battre sans chercher à qui la faute.
Tout en douceur. Un beau numéro aussi, je pense. Puis en plus, tu sais, on sent que les académiciens aiment beaucoup Ariane Moffat, puis Ariane aime beaucoup les académiciens. Je pense que ça va être très chouette. Fait qu'à ne pas manquer dimanche, pardon, à 19h30. Puis je vous rappelle, c'est William, Mégane et Guillaume qui sont en danger.
Le podcast Debout les comiques.
C'est la fois où vous avez nuit à vos parents dans leur job à eux. Oui. Inspiré de Anne Ebert qui a démissionné de chez Nike, rien de moins, parce que son fils de 19 ans s'est servi de sa carte de crédit 100 000 $ de running shoe qu'il a vendu dans son commerce d'invendu sur la côte ouest américaine.
Est-ce que, mettons, Danielle Chapelot sur le Facebook de C'est quoi, ça compterait? Elle amène son fils à son travail. C'est un nouveau travail. Ses collègues le connaissent pas tant que ça. Puis elle se remène un peu partout. Elle présente son fils. Puis son fils, il dit, moi, ma mère, elle aime beaucoup le vin. Elle en boit vraiment beaucoup tous les jours de la semaine. Danielle est un peu gênée, mettons.
Ça aide, ça nuit un petit peu, effectivement. José McNichol qui est là. Non, c'est pas José, c'est Martin de Saint-Lin qui est là. Salut, Martin.
Bonjour.
Mon Dieu, Martin, fais-tu du dynamitage en nous parlant?
Pardon?
Non, excuse-moi, il y a beaucoup de bruit autour de toi, Martin. C'est quoi? Quand est-ce que tu as nuit à tes parents dans leur job ou toi, t'as été nuit?
Ben, parce que moi, quand j'étais jeune, j'avais peut-être 8 ans, 8-10 ans, ben, mon père était pompier volontaire dans le coin de la Naudière à Sainte-Mélanie.
OK.
Puis, fait que là, l'été, j'allais mettre le feu dans la forêt ou de quoi du genre. Ben, jamais dans les maisons où les personnes habitaient, là. J'étais stupide, là, mais pas assez pour ça, là. Mais, ouais, fait que là, ça lui donnait du travail. Puis là, j'aimais ça le voir travailler, fait que je mettais le feu.
Ben voyons donc, toi!
Ben voyons donc!
Mais t'as-tu payé pour tes crimes? C'est illégal faire ça, non?
Oui, c'est illégal. Ça s'est jamais su.
Eh hey, mon Dieu!
Jamais. Puis c'est la première fois que je le dis, là, assez haut et fort comme ça.
T'avais quel âge? Rappelle-nous, Martin, t'étais petit, là.
J'avais 8-10 ans, là. Juste le fait que mon père m'aurait pris avec un briquet ou des allumettes,
ben non.
Je me serais fait taper ses doigts, là.
C'est sûr. Martin, merci de ton appel là, ce matin. C'est très, très apprécié. C'est peut-être moins élevé, mais il y a Kevin sur la messagerie texte qui écrit « Moi, mon fils a fait caca dans une toilette démo de maison modèle sur un échantillon. »
Non.
Oh, c'est dur à battre. Oh, moi, j'ai vécu quelque chose. Mais ça, c'est dur à battre. Moi, 1983, mes parents décident qu'on s'en va en Chicoutimi pendant un an. Ils veulent se partir une entreprise de store. Ça s'appelle Store Contemporain, des stores verticaux, des stores horizontaux. Et il y a un établi dans le sous-sol. Mais moi, cette année-là, j'ai 8 ans, puis je trippe vraiment sur mes Barbies. Et des fois, mon père, il me donne des petits échantillons, des petites affaires pour que j'ai des planchers de vinyle dans mes petites maisons.
Ben oui,
je me fais
des
pièces de maison de Barbie.
Le store large, ça fait la job.
Ça faisait la job. J'étendais ça. Puis à un moment donné, j'en manque pour faire un petit plancher. Fait que je m'en vais. Sur l'établi, il y a des longs stores verticaux. Et là, on avait une tranche. Fait que je coupe avec la tranche des stores. Je me prends des. Il y avait des belles couleurs. Je mets ça. Mon père s'est retrouvé avec une commande chez un client, installer les stores. Et ils sont pas de la bonne grandeur parce que j'ai chopé pour me faire un plancher de Barbie, Colin.
C'est extraordinaire.
Oh, j'ai nuit. Hey, je peux-tu te dire qu'après ça, j'avais plus le droit de chopper?
Je suis tellement complice, ta vie.
Hey, sinon, il y a Karine Federley qui, elle, est sur le Facebook de C'est quoi. Puis en ce moment, avec les Zooms, avec les téléphones, il se passe bien des affaires, là. Écoute, sa fille, elle a 2 ans. Premièrement, l'autre jour, elle est entrée pendant que sa mère est en train de faire un Zoom, était en bobette, puis elle a fait son show devant la caméra, devant tout le monde. L'entrevue a arrêté, ça a été reporté au lendemain. Puis Karine dit, encore pire que ça, dernièrement, je suis au téléphone avec un de mes patients, puis sa fille a crié des toilettes, « Maman, c'est sorti mon caca, c'était pas juste un pet! » Le patient a tout entendu.
Trop de détails. Je donne le mot de la fin à quelqu'un qui se nomme pas malheureusement. Il dit, mon père est policier. Et ma journée costumée à l'école, j'ai volé son soude de police.
Mais non.
Avec tout le kit. Même son gun.
Mais non.
Mais voyons donc. Vous êtes spectaculaire ce matin. Merci de vos textos.
Le meilleur des comiques sur demande.
Allô, mon Guillaume.
Salut, la gang.
Guillaume, on va aller vite. On a un menu chargé ce matin quand même. Et hier, cette semaine.
On aime ça d'habitude, nous autres.
On aime ça, un menu chargé, moi plutôt, puis on rajoute même de la sauce. sinon, Guillaume, ton podcast cette semaine avec Maxime, vous receviez, entre autres, Yann Laperrière. Et on va écouter tout de suite un extrait. Et je suis surpris de ça, pour vrai, puis je vais te dire pourquoi dans un instant.
Parfait. J'ai grandi à Rivière-des-Prairies. Le samedi soir, je regardais le hockey avec mon père. Le Canadien de Montréal, pas d'autre hockey, là. C'était la soirée du hockey. On regardait ça. Puis j'en parle, les boys, j'ai des frissons. C'est simple, là. C'est tout simple que ça, là. Je regardais Guy Lafleur, Carbo, un petit peu plus tard, obviously, là. Mais c'est dans notre DNA, là. C'est dans nous, là. Puis quand j'ai été à Jean-Libre deux fois, ils m'ont jamais appelé. Ça m'a fait un pincement au cœur. Jamais appelé. Puis je regardais les équipes, puis je suis pas un génie, là, mais il y avait besoin d'un joueur comme moi, là. Il y avait pas de robustesse, il y avait pas de joueur de même.
Aïe, ça, là, pour vrai, là, je tombe des nues, pour vrai que Yann Laperrière voulait venir jouer à Montréal. C'est rare, premièrement, on va se le dire, Guillaume, il y a plein de Québécois qui essaient d'éviter
qui
Montréal.
Veulent, mais, oui.
Mais Yann Laperrière, un guerrier qui aurait voulu deux fois, il aurait pu venir à Montréal. Ouais. On faisait signe qu'il était là. Puis il a raison, là, c'est un joueur qu'on aurait pris en tabarouette, là.
Ah non, il aurait tombé comme fan favorite, c'est sûr.
C'est
là.
Sûr.
Les gens auraient trippé sur lui, tu sais, juste à, pour que Val situe un peu, le gars a bloqué deux lancers avec sa face, dont le premier, il a reçu 100, un lancer d'en face, 100 points de suture. Il a fait faire ça pendant la deuxième période, puis retourner jouer en troisième période.
C'est fou, non, c'est un ultra tough, là.
Tabarouette.
Puis si tu regardes la vidéo, tu vas voir, là, son nez, ça paraît pas du tout qu'il a mangé des coups, là. Puis il dit, je suis tellement beau, tu sais, il niaise, parce qu'il s'est fait casser le nez souvent. Mais il a tellement été généreux, honnêtement, là, ceux qui ont la chance d'aller écouter ça.
Vraiment?
Mais oui, pour le Canadien, ça aurait été un joueur exceptionnel. Puis c'est dans les années que Lapi était là aussi, tu sais, je peux te dire, Laperrière avec Lapierre ensemble, ça a quatre. Ça aurait été fatigant, ça.
Ça aurait été très fatigant.
Non, Guillaume, il y a une triste nouvelle qui est sortie cette nuit. C'est le père de Wayne Gretzky, Walter Gretzky, donc, qui est décédé à l'âge de 82 ans.
Exactement. Pourquoi j'en parle, c'est juste, tu sais, Wayne Gretzky, tout le monde le connaît, l'idole, mais il reste que Walter, c'est vraiment un personnage connu dans le hockey. Tu sais, il a fait des publicités, c'était un gars super impliqué. C'est sûr, quand t'es le père du plus grand joueur de l'histoire, qui détient probablement tous les records, quasiment. Là,
ouais, mais attends, mais Guillaume, on dit ça, là, t'as raison, mais en même temps, on sait pas c'est qui le père de Maurice Richard. On sait pas
c'est qui le père
de Mario Lemieux. Walter Gretzky, c'était le papa hockey parfait, honnêtement.
Ouais,
il était parfait. Guillaume, t'as raison, là.
Ouais, tu sais, fait qu'il a été impliqué dans plusieurs causes. Il était souvent en arrière de Wayne. Tu sais, puis on l'a vu, on a vu souvent aussi sa maison. Il a tout gardé de Wayne, là. Son sous-sol est rempli, là. Il y avait eu une émission à RDS dans le temps, puis je pense que deux jours après, il s'était fait cambrioler dans le sous-sol, tu sais. Mm-hmm. Le monde sont pas trop discrets.
Non,
mais,
non.
une lourde perte pour le hockey, puis, on envoie les condoléances à la famille, c'est sûr.
Geoff Ward a été congédié à Calgary. Il aurait été remplacé par Daryl Sutter. Qu'est-ce que nous dire là-dessus?
j'adore ce terme.
Mais j'ai tellement hâte de parler du Canadien. Je suis bien content de parler de Calgary. Là, mais
je vais aller vite. Mais un autre entraîneur congédié, c'est dans cette année folle, à 56 matchs, qui joue au-dessus de 500. Tu sais, Geoff Ward n'était pas dans les séries éliminatoires en ce moment. Congédié après une victoire de 7-3 contre les Sénateurs hier. Ça doit être assez spécial, mais c'est encore une fois une équipe que les attentes étaient hautes puis qui ont réussi pas à performer. Tu sais, les fameuses playoffs l'an passé là, ont changé la façon de voir la game pour tout le monde. Ça a changé, ça a créé des attentes. Montréal a changé de coach, Calgary a changé de coach, puis bientôt, ça va être Vancouver.
Ah oui, hein? Le Canadien, parlons-en. Hier, ça a parti les Jets. Mon Dieu, je dis, ils sont en finale de la Coupe Stanley. Le feu dans le derrière.
Le Canadien était pas là.
Pas en tout. Au début, après ça, ça s'est replacé, mais il va falloir être prêt, mais que ça parte, là.
Ouais, très décevant comme début de match. Honnêtement, on revient, tu sais, après toute la discussion Price-Allen encore qu'on a eu hier. Mais il reste que le Canadien était pas prêt à jouer. Les Jets sont sortis extrêmement fort. Puis, tu sais, les Jets sont vraiment sous-évalués, là. Les gens les voient pas aussi gros qu'ils sont, mais ils sont vraiment
bons.
Ils sont vraiment dangereux. Puis tu peux pas leur laisser un pouce parce qu'ils vont scorer des buts. Défensivement, tu sais, Kalibok des filets, mais le Canadien, il faut qu'il soit prêt à jouer, il faut qu'il soit prêt à performer. Tu sais, je regardais les temps de glace. T'sais, un gars comme Jonathan Drouin hier avait un super début de match, il a joué 17 minutes. Pourquoi on le monte pas à 20? T'sais? J'ai pas de problème les soirs qui est hot, qui est dedans.
Go.
J'aimerais ça en voir plus de Paul Byron. Tu sais, il joue bien, il patine. J'aimerais ça qu'on donne des opportunités. Je suis pas en train de chialer après d'homme, là, honnêtement. Mm-hmm. Je pense qu'il fait du bon travail puis il est en train de changer certaines choses que j'ai hâte de voir, j'ai hâte que ça arrive. Ouais. Mais on peut pas arriver pas prêt comme hier contre une équipe comme les Jets.
Et l'autre affaire va falloir résoudre, puis on a 30 secondes, Guillaume, pour en parler, mais j'étais à la même place que toi, perdre en prolongation tout le temps.
Ouais.
Faut trouver une façon de gagner à un moment donné, là.
Moi, j'aime mieux perdre en y allant en ligne que de perdre en essayant de pas
jouer
perdre,
fancy ou de jouer ouais, défensif.
T'sais, j'ai pas de problème contre les joueurs défensifs, là, mais on est 0-6 en ce moment. Pourquoi eux autres, Winnipeg, font deux changements? Ils ont deux fois trois joueurs, c'est 6 attaquants, leur premier gars, qui ont touché à la glace.
Pas de défenseur?
Pas de défenseur. C'est 6 attaquants. Ils ont mis trois. Ils ont mis Wheeler, Stachny, puis l'autre gros bonhomme que j'oublie le nom. Trois attaquants. Hellers. Change. Trois attaquants. Merci, bonsoir. On essaie de gagner, puis gars, ils ont gagné deux dernières fois contre les Canadiens. Faut que tu y ailles avec tes meilleurs.
T'as raison.
Tu sais, hier, c'était Drouin ton meilleur. Faut qu'il soit là en startant. Je m'en fous, c'est qui. Je m'en fous comment on se place. À 3 contre 3, là, on joue homme pour homme. Il n'y en a pas de système de jeu. Que le monde arrête de me dire, ouais, mais en défense.
Non,
c'est,
t'as raison.
C'est homme pour homme. Lâchez-moi, tu suis ton gars partout sur la glace.
C'est Drouin, Suzuki, puis l'allié de ton choix, Anderson,
l'allié de ton choix, Petrie, c'est le gars le plus mobile à défendre. Romanov joue bien, puis 2-3 games. Mêlé, c'est man to man. Tu gars, tu cloutis en face de toi. Suis-les. Bon, parfait.
Eh, mon Dieu, je suis sur le banc, puis je suis aussi facile à suivre ça a de l'as que sur le banc. Moi, c'est l'avantage. Merci,
en
mon
fait,
beau Guillaume.
Je suis sur le banc, puis je t'ai soufflé.
Oui, aussi. Merci, mon beau Guillaume.
Salut,
bon week-end,
salut.
Bon match en fin de semaine.
Le meilleur des comiques, sur demande.
Quand quelqu'un est vraiment chanceux, on lui dit simplement de s'acheter un 649. Eh bien, ce matin, je vous dresse la liste des moments où on devrait vraiment s'acheter un 649. À part Orville, tu connais un autre Eden Baker? Achète-toi un 649. Tu connais quelqu'un qui a étudié en philosophie et qui travaille en philosophie? Hey, pour vrai, achète-toi un 649. Puis si tu gagnes, donne-y un petit peu, OK, s'il te plaît?
Il y a besoin d'aide.
T'es capable de prononcer les mots Barbies, Resto Bar Grill sans te mettre à chanter comme un imbécile? 649. Vous avez le goût de la chanter, là?
Mais ça.
Alors, tenez-vous, on va l'avoir dans la tête toute la journée.
On y pense tous.
T'as déjà vu un propriétaire de pawn shop qui respirait la santé? Achète-toi un 649. T'as écouté 20 minutes de radio à Chaume, puis t'as pas entendu trois fois Stairway to Heaven, 649. Le gars qui mangeait des vers de terre à ton école primaire est devenu astrophysicien, 649. T'as un ado à la maison, puis t'as passé plus qu'une heure sans entendre la phrase « Qu'est-ce qu'on mange? » Achète-toi un 649. Mais avant, va vérifier s'il est encore vivant, parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Tu connais un jongleur qui jongle avec plusieurs offres d'emploi? 649! T'as plus que 40 ans et tu t'es jamais levé en faisant « Hey, boy, boy! » 649. Le matin, quand tu te fais un café Nespresso, tu réveilles pas tout le monde sur ta rue. 649. T'as déjà vu un prof de morale avec de l'autorité dans sa classe? 649. J'ai fait ça, moi, suivre les cours de morale.
Ah oui.
C'était le bordel dans le petit local qui servait pas vraiment à ça. T'as tellement raison, là. Oh, t'as mangé un Mr. Puff sans être prêt à vendre tous tes reins pour en manger un deuxième.
Ben voyons.
649.
Ah oui, à ce point-là?
Hey, c'est bon même? Bon. Hey, ça fond dans la bouche.
Ah oui?
Hey, pour vrai. En plus, c'est sans lactose. Là, les allergènes, il n'y en a pas dans Mr. Puff. Bref, plein de bonnes raisons de manger des Mr. Puff. T'as déjà été impressionné plus que 5 secondes par quelqu'un qui fait du beatbox? Achète-toi un 649.
C'est
ton moment de nez.
C'est chiant.
Après 5 secondes, c'est un malaise.
Ils sont tellement fiers.
Ça t'est déjà arrivé de pas goûter la différence quand quelqu'un te dit « Tu vas voir, on goûte pas la différence. » 649. Tu connais un adulte qui tripe beaucoup trop sur Tintin et qui est pas épeurant avec ça. 649. Et finalement, t'as déjà eu envie d'être bodé avec un gars qui appelle tout le monde bodé. 649.
Ça, c'est plus que improbable.
Le meilleur des comiques, sur demande.
Aïe, 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 clin d'œil. C'est une revue mondiale, ça, c'est francophonie.
Une revue québécoise,
c'est juste
pour
québécois?
Le clin d'œil, absolument. Okay. Parce que, mesdames, messieurs, il y a une nouvelle icône de la mode à Montréal. Mmh. Et elle se nomme Tika le Lévrier. Oui, c'est un chien qui est sur la couverture du magazine Clin d'œil depuis hier. Et pas n'importe quel chien. Où s'en va le monde?
De la mode, on se calme, c'est un chien.
Je te jure sur ma tête, OK? 1 million de personnes suivent Tika le Lévrier sur Instagram. Je te jure sur ma tête. Tika, c'est un petit lévrier italien. Tout petit, tout petit, tout petit, qui habite à Montréal, à Ville-et-Mort, okay, depuis les dernières années. Et ce qui est arrivé, c'est que ses propriétaires partageaient sur Instagram des vidéos, des photos de Tika, le chien, le lévrier. Et ça a attiré énormément de gens, tellement que durant le confinement, il y a eu une vidéo qui est devenue virale. Elle a été vue plus de 45 millions de fois sur TikTok, plus de 25 millions de fois sur Instagram. Et c'est... seulement niaiseux, j'en reviens pas que je parle de ça. Le chien Tika qui porte une tenue en fausse fourrure, une tenue en arc-en-ciel, un ensemble sportif avec des petites rayures jaune et blanche, un pull en tricot orange, et tout ce qu'il fait, c'est dire ceci.
I had so many cute outfits planned for this year that I couldn't wear, so I just wanted to show you. See this? I love it. I couldn't wear it. Love it. Couldn't wear it. Then there's this. Love it. Couldn't wear it. Love it. I couldn't wear it. And this was supposed to be my cute costume, but no.
Comment t'écris ça? T-I-K-A.
T-I-K-A.
Parce que là, okay, je suis sur mon Instagram. Désolée.
Faut que
là
tu regardes ça. Parce que la vidéo, ce qu'elle explique, là, Tika, le chien, c'est qu'à cause du confinement, elle avait plein de belles tenues. Elle n'avait pas pu les porter. Elle était en maudit. Et là, elle fait une vidéo pour expliquer que tout ça, c'était bien beau. Elle pouvait pas la porter. Tika, okay, le chien, okay, c'est drôle, a 9 ans. Vous devez regarder ça, OK? Faites juste vous amuser. C'est la grosse sensation. Voilà.
Un froufrou rose.
Et ça, c'est la couverture du clin d'œil. Le chien, lévrier, Tika, montréalais, qui fait parler en passant partout sur la planète. Hein. C'est vraiment un phénomène mondial.
Robe de soirée, invite... de gala.
S'il vous plaît, gâtez-vous. C'est incroyable.
Mais je trouve que clin d'œil est audacieux. Je trouve ça, ouais, vraiment cool, parce que probablement que c'est jamais arrivé à un animal.
Mais le chien a déjà fait... Tika, oh, là, il y a des articles dans le Vogue, okay, partout sur la planète.
Mais,
de le mettre en première page, moi, je n'ai jamais vu ça.
Ben, c'est donc bien drôle.
C'est écœurant.
Tu sais, en pharmacie, si je vois les magazines, je vais penser que c'est un magazine sur les animaux. Je penserai jamais que c'est un magazine de mode.
Dans une suite à l'hôtel Le Germain à Montréal.
Ah, oh, j'aime ça qu'on se prenne pas au sérieux comme ça. Je pense que j'ai la même chose avec mon Kevin, mon
en passant,
chat.
Si tu laissais avec Kevin, sache que les propriétaires de Tika font plus de 100 000 $ par année avec Tika.
Oh, tabarouette.
Il y a du potentiel.
On vient de parler.
I have so many cute
outfits
planned for this year that I couldn't wear, so I just wanted to show you. See this? I love it. I couldn't wear it. Love it. Couldn't wear it. Then there's this. Love it. Couldn't wear it. Love it. Couldn't wear it. And this was supposed to be my cute costume, but no.
Le meilleur des comiques sur demande.
Allô Maxime.
Salut.
Merci pour ton texto qui commence par salut la légende. C'est parce que j'ai l'air d'un pick-up Ram.
T'es content.
Merci. Hey Max, on va commencer, on va revenir sur le match du Canadien, le début du match et la prolongation. Pourquoi on perd 3-3? C'est-à-dire pourquoi on perd à 3 contre 3 tout le temps?
Ben ça, je voulais en parler parce que ça fait quelques semaines là, qu'on entend des critiques à ce sujet. Puis pour moi, c'est très simple. Tu sais, je veux être clair, là, le Canadien, je pense qu'ils ont une très bonne équipe de hockey malgré la mauvaise passe. Mais le côté talent pur, je trouve qu'on peut pas se mesurer aux autres équipes. Puis je m'explique. Tu sais, si tu regardes hier le Winnipeg, ils ont, ouais, les Scheifele, Wheeler, Connor, Dubois, Ehlers, Stastny. On n'a pas ça, nous autres, dans notre équipe. Je suis désolé de l'annoncer. On a peut-être Jonathan Drouin là, qui est capable de compétitionner côté talent, mm-hmm, pur. Mais
Suzuki n'est pas mauvais. On a des bons joueurs quand même, un peu, non?
Oui, on a des bons
pas
joueurs.
À ce niveau-là?
Ben non, je pense pas. T'sais, pensez-y à Toronto, les Matthews, Marner, ah non, Nylander, Tavares. On est pas à ce niveau-là. On est une équipe qui joue bien en unité de 5, mais quand il est temps d'être un contre un, puis d'être créatif, puis de créer de talent pur, on n'a pas ça. Puis moi, c'est pour ça que je pense qu'on perd à 3 contre 3. On est aussi bien d'essayer de gagner avant la prolongation, parce que c'est pas notre force. On va s'entendre là-dessus.
Et là, on va en parler plus en détail de Jonathan Drouin. Hier, il s'est mérité une étoile, donc, et c'est un joueur qui est en feu présentement, Jonathan Drouin. C'est peut-être l'arrivée du charme et tout ça. Parle-moi-en, là, c'est positif.
Il y a un fit avec le coach, en tout cas.
Ouais, non, mais ça paraît. Puis tu sais, je suis content d'en parler ce matin parce qu'on a donné notre part de critique à Jonathan Drouin dans le passé. Puis faut le dire quand ça va bien. Puis ça paraît qu'il est heureux. Ça paraît qu'il est créatif sur la patinoire. Qu'il y a pas de, tu sais, il y a pas de souci. Il patine avec la rondelle. Puis il s'exprime. Tu sais, ces joueurs-là, là, on parlait souvent de Kovalev qui était un artiste. Mais ces joueurs-là ont besoin d'avoir le droit de faire ce qu'ils veulent sur la patinoire parce que, tu sais, je viens d'en parler. Le côté talent pur, Jonathan Drouin, c'est un des seuls dans l'équipe, je pense, qui est capable d'amener son jeu à un autre niveau. Puis si on est capable de le rendre heureux, ce gars-là, puis confiant, je pense que ça va aider grandement le Canadien de Montréal.
Puis mettons un joueur de rôle, mettons, je veux pas te peinturer dans le coin, mais mettons toi, Max, quand tu jouais, t'étais pas le premier joueur de centre ou le premier ailier de l'équipe. Quand tu jouais avec un gars de talent même, est-ce que vous parlant de vous autres, dire hey, vas-y, man, je vais protéger tes arrières un petit peu plus?
Oui, exactement. Ça, c'est des choses qui se disent. T'sais. On dit, moi, je vais faire ma petite job tranquille défensivement. Là. Puis toi, amuse-toi, va compter des buts. Puis peu importe l'erreur que tu fais, ben
I got your back. Là, avec comme, toi, c'est ça.
Exactement. Puis ça paraît. Puis c'est bon pour les jeunes aussi, parce que c'est le jeune Suzuki, je pense, qui va grandir là-dedans.
Ouais.
Puis sinon, Max, on a souvent parlé avec toi, Alexis Lafrenière. Au début, on n'était pas sûr, ça allait pas super bien, mais là, il est de plus en plus confortable.
Ah ben oui, il y a des points à ces 4 derniers matchs.
Un but de passe hier, là.
Exactement. Puis ça vaut la peine de le regarder un petit peu, parce que je trouve ça le fun de regarder l'évolution d'un jeune joueur comme ça, tu sais, dans la Ligue nationale de hockey. C'est pas facile d'arriver dans une grande ville comme New York, s'adapter, jouer avec des vétérans, puis tout ça. Puis là, il est tellement patient avec la rondelle, il est tellement talentueux, puis tu vois qu'il commence, là, il veut la garder la rondelle, puis il a le goût de compter des buts, puis oui. il est pas stressé là. Au début là, il s'en débarrassait un petit peu, puis ça paraissait, mais quel beau joueur de hockey. Puis là, je suis content parce qu'il y avait des critiques qui étaient inutiles à son endroit.
Vous aviez raison, toi puis Guillaume, vous étiez à la même place.
Exactement, on avait raison. Hein. Il y a d'autres légendes aussi.
On dirait que vous connaissez ça, le hockey.
on connaît ça de temps en temps. Puis quand vient le temps de protéger un petit Québécois, bon, on va être les premiers à y aller, si je peux vous garantir. Hey,
on a-tu le temps de te poser une dernière question au sujet du chandail reverse du Canadien?
Ah oui?
À chaque fois qu'il porte, le Canadien,
on perd.
Penses-tu que ça joue dans la tête des gars actuellement?
Les gars se disent, hey, là, on arrête-tu de le mettre, ce chandail-là?
Oui, il est tellement beau.
Je pense pas. Je pense que t'as raison, il est super beau, le chandail. Tu sais, les gars se concentrent pas sur ces choses-là. Je pense que c'est une question de timing.
Mais il y a des superstitieux quand même dans l'équipe, non?
Ouais, il y en a, là, mais de là à changer l'uniforme, je pense pas que ça va arriver. Puis, ouais, mais mauvais timing. Peut-être que Billy regardait le match en même temps.
Ça peut. Hey, Max, bon week-end, bon match en fin de semaine, puis on se retrouve sans faute lundi matin, mon ami.
T'es comique, de retour dans un instant.
96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
There were hundreds of us working at literary agencies.
Tabs wrong, margins wrong, really everything wrong.
We answered calls for our bosses.
Hello.
Fetch them water, never belying the fact that.
C'est Philippe Falardeau, Philippe Falardeau.
Ben, on peut dire les deux, hein, parce que c'est un film 100% québécois, mais qui est fait dans l'environnement de New York.
Okay.
C'est un film qui est américain.
C'est particulier.
Parce qu'il va être lancé aux États-Unis, mais il a été tourné ici avec des acteurs d'ici. Mais c'est le film Mon année Salinger, qui est un film qui sort donc officiellement aujourd'hui en cinéma. Petit aperçu de ce qu'on a entendu dans le fond dans la bande-annonce. Ouais. Ça se passe en 1996. C'est l'histoire de Joanna, une jeune diplômée en littérature qui décroche un poste d'assistante de l'agent du célèbre auteur J.D. Salinger. La patronne, qui est jouée par Sigourney Weaver, c'est une femme qui est autoritaire, super intimidante. Et une partie de la job de la jeune Joanna, c'est d'envoyer une réponse 100% générique à toutes les personnes qui veulent envoyer une lettre à l'auteur. Puis à un moment donné, elle se dit...
Puis c'est tiré d'une histoire vraie. L'auteur existe pour vrai. C'est lui qui a écrit l'attrape-cœur, le roman.
Fait qu'elle répondait au courrier de l'auteur, donc.
Elle répondait avec des réponses de base, parce que l'auteur, il voulait rien savoir. Puis à un moment donné, elle s'est dit, ben, j'aimerais ça répondre un petit peu plus personnellement à certaines lettres. Et voilà. Ça, c'est l'histoire, la prémisse de Mon année Salinger. Fait que ce que moi, j'ai trouvé de cool dans le film que j'ai eu la chance de voir, puis j'ai eu la chance d'en discuter avec Philippe Falardeau, c'est que ça parle de toutes les questions qu'on se pose quand on est au début de la vingtaine, qu'on place certaines bases de notre vie. Ça, je pense que c'est universel. Genre, qu'est-ce qu'on va faire dans la vie? Est-ce qu'on va pouvoir réaliser nos rêves, les ambitions qu'on a? Est-ce que j'ai une bonne job? Est-ce que j'ai un bon boss? Puis mon chum, est-ce que ça marche pour vrai? Fait que c'est ça qui intéressait Philippe Falardeau quand il a lu le livre à la base pour pouvoir en faire le film.
Tout ça m'intéressait de revisiter dans la perspective d'une femme aussi, parce que les chemins empruntés ne sont pas forcément les mêmes. Moi, je pense qu'il y a 25 ans, un gars qui voulait écrire, probablement qui vivait plus une vie de glandeur et de bohème dans le café à écrire. Les filles ont toujours un sens un peu plus indécrottable de responsabilité et se pognaient des jobs comme assistante ou comme secrétaire. Et ça change, ces choses-là, mais il y avait quand même des doubles standards. Moi, ça m'intéressait de revisiter ça aussi du point de vue d'une femme.
C'est un film, je pense, où on se reconnaît, un film touchant, mais qui est super drôle, qui est très agréable à regarder. Tam, je sais que tu l'as vu. Comment t'as aimé ça?
Ah, j'ai adoré ça.
C'est vraiment
ça. Ah oui, moi, j'aimais le côté, tu sais, dans le sens où t'as un artiste, le but d'un agent, c'est de le mettre en lumière. Il faut qu'il le voit le plus possible. Expose-toi sur les médias sociaux. Mais là, dans le cas de J.D. Salinger, c'est... Faut pas qu'on en entende parler. Il veut pas être dérangé. Je trouvais ce contraste-là vraiment saisissant.
T'as entièrement raison. Puis, tu sais, moi, j'ai trouvé que le film était vraiment très bon. Puis, je trouvais ça le fun que ça puisse sortir au cinéma officiellement aujourd'hui. Mais quand j'ai commencé l'entrevue, j'ai pas eu le choix de parler de la dernière année. Parce que le film, Mon année Salinger, ça a été présenté à Berlin en février 2020.
Et là, il s'est passé ce qui s'est passé.
Ça a passé dans le beurre après.
Ouais, c'est ça.
Mon film s'appelle Mon année Salinger, mais moi aussi, j'ai mon année Salinger. C'était surréaliste de passer d'une projection où il y avait 2200 personnes. En fait, il y avait deux projections ce soir-là, parce qu'une fois que le film est commencé, on m'a mis dans un taxi, puis on m'a dépêché dans une deuxième salle où il y avait 1700 personnes. Donc, le premier soir, pas loin de 4000 personnes ont vu le film. Mm. Et là, on est revenu deux jours plus tard et l'univers fermait.
Tu sais, puis en entrevue, Philippe, moi, je pensais qu'elle allait être pas amère, parce que tu peux pas être amère de ça, c'est incontrôlable.
Mais il est fataliste, probablement.
Mais écoute, au contraire, il m'a dit, à ce moment-là, quand tout a fermé, j'ai comme oublié le film.
Pour
vrai? Ce que j'ai trouvé tough, c'est à l'automne, quand il y avait des rumeurs que le film sortait, Mon année Salinger, il dit là, en septembre, on me book des entrevues, le film sort pas.
Il est en ouverture du festival du Nouveau Cinéma, moi c'est là que je l'ai vu,
mais
à
oui,
l'automne.
Mais en même temps, mais il sort pas officiellement.
Mais non, ça juste...
Il y a une présentation d'un titre d'attente.
Je sais.
Après ça, en décembre, oh non, là ça ouvre. Mais non, c'est que ça referme. Fait qu'il fait des entrevues, le film sort pas encore. Mais là, aujourd'hui, je pense qu'hier, il était un peu libéré, là. Fait que là, aujourd'hui, c'est là que le film sort, Mon année Salinger. Ça va être disponible au cinéma et en vidéo sur demande. Puis j'ai demandé, dis-moi, Philippe Falardeau, t'es-tu tanné de répondre aux questions des journalistes?
C'est comme de dire que je serais fatigué de parler de ma fille de 4 ans. Non, on peut pas. Il faut défendre le film. Mais bon, évidemment, la fille, c'est pas pareil parce que je l'aime d'un amour inconditionnel. Oui. Même mon film, moi, je peux y trouver des défauts. Mais non, puis on n'est jamais... Quand on sort un film dans un contexte normal, on le sort souvent 5 ans après qu'on a commencé à l'écrire.
Mm-hmm.
Donc, il y a toujours un décalage.
Puis il m'expliquait en plus que, règle générale, quand Philippe Falardeau sort un film, qui en fait la promotion, là, c'est particulier parce qu'il a fait plusieurs rounds de promotion, mm-hmm. si on veut, mais règle générale, il est sur un autre projet à ce moment-là. Fait qu'il faut déjà qu'il se remette dans le film dans le passé. Fait que c'est bien correct. Mais ce qu'il trouve particulier cette fois-ci, c'est que ça coïncide à la sortie du film, coïncide avec la réouverture des salles au cinéma. Fait qu'il me disait en entrevue hier, j'espère que ça va contribuer, ne serait-ce qu'un petit peu, à ce que les gens retournent au cinéma, achètent des billets pour aller voir un film québécois. Mm-hmm. Puis il dit, je me sens honnêtement comme le gars du CAA qui va booster une batterie de char l'hiver quand il fait trop fret. J'espère que ça va booster les salles de cinéma.
Yes!
Fait que Mon année Salinger, ça sort aujourd'hui au Québec et aux États-Unis. Ça sort au cinéma, ça sort en vidéo sur demande. Philippe Falardeau m'a dit, je vous suggère de le voir au cinéma parce que les propriétaires de cinéma en ont besoin. Cela dit, il dit qu'il est très en paix avec la vidéo sur demande.
Mais c'est encore donc un Québécois qui fait un film américain?
Encore un Québécois qui fait un film américain.
Avec des acteurs québécois?
Avec des acteurs québécois et américains.
C'est hâte.
Moi, je suis vraiment impressionnée. Allez voir ça. Mon année Salinger, c'est vraiment bon.
Le meilleur des comiques, sur demande. Debout les comiques veut que tu mettes de l'ordre là-dedans. C'est avant ou après? À toi de nous le dire. Avant ou après?
C'est le dernier droit de la semaine de relâche. Peut-être que vous allez écouter des films en fin de semaine. Donc, on va s'intéresser aux films de science-fiction parce que c'est le genre le plus populaire du cinéma.
Ah oui, hein?
Notre point de départ, c'est la musique relative à cette musique-là.
Forrest Gump.
Non, c'est Retour vers le futur, 1985. Il y a eu ensuite deux suites de films. Est-ce que vous saviez d'ailleurs que Michael J. Fox, là, il jouait pas Marty au début? C'est un autre acteur qui s'appelait Eric Stoltz qui a tourné.
Eric Stoltz, c'est le gars qui faisait Masque.
OK, ben ce gars-là, il a tourné pendant trois semaines le film, mais les producteurs se sont rendus compte que ça marchait pas. Ils ont renvoyé. Le
Eric
gars de Masque.
Stoltz, quand même.
Oui, puis ils ont engagé Michael J. Fox, puis c'est devenu le succès.
Mais
ben non, moi non plus, je savais pas ça. Alors là, c'est un collaboratif. Vous allez jouer ensemble parce que quand on joue, souvent, il y a de la chicane. Puis moi, j'haïs ça, la chicane, la compétition.
Vous pouvez jouer. Ensemble. Amusez-vous sur la messagerie texte avec nous autres,
ben
au 96.9, 96.9.
Vous pouvez d'ailleurs vous aider de la messagerie texte à Valérie et Martin.
1985, c'est l'année de départ?
Ben voilà, c'est le film Retour vers le futur. Oui. Donc, je vais vous nommer d'autres films de science-fiction. Vous allez devoir me dire s'ils sont sortis avant ou après Retour vers le futur. En 1985.
Oui.
Okay. On se lance avec Alien. Le premier Alien.
Oh, c'est avant, ça. Je pense
c'est
que
avant, c'est sûr. Moi, je suis née en 86. C'est bien avant mon naissance.
Ouais, c'est bien avant. Moi, je pense que c'est avant aussi, ouais.
OK.
Martin de Saint-Lin est d'accord avec nous. Avant.
Avant. Ils disent avant. On valide. Effectivement, c'est sorti en 1979, ce classique de Ridley Scott. Et la franchise d'Alien a amassé plus de 1,3 milliard de dollars dans le monde. On parlait de My Salinger Year un peu plus tôt.
Oui.
Sigourney River jouait là-dedans. Ça fait beaucoup de mots en anglais que je dis en ligne.
Mais dans les deux films, t'es bonne.
Oui, on continue avec... La Matrice. c'est sorti avant ou après Retour vers le futur en 1985?
Oh, après. Après.
Oui, 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 c'est sûr, j'avais l'air sûr.
1993, genre.
Facile.
15, 13, 15, 13.
Vous avez dit après.
Ouais.
On valide. C'est une bonne réponse. Quelle année? L'année exacte, c'est 1999.
Oh, quand même, plus tard encore.
Oui, et au départ, c'était Will Smith qui devait jouer Neo. Finalement, ben, ça a été...
Non.
Ouais, je te
dis, j'adore Will Smith, mais je suis content que ce soit Keanu.
Keanu Reeves.
Keanu, bravo. Francis Leduc qui l'a eu, il disait après lui aussi.
Ah, bravo. La Matrice 4, c'est présentement en tournage pour une sortie en avril 2022, on dit. Le dernier. Donc là, vous avez deux bonnes réponses sur deux, bravo. RoboCop, c'est sorti avant... ou après Retour vers le futur? Hey,
ça, je trouve ça difficile, je te dirais.
Attends, mais attends un peu, là.
Là, vous jouez pour une partie parfaite, là, si vous l'avez.
Une partie parfaite. Alexandra Sabot a dit après.
Mais Marc-Antoine Laramée dit avant. Moi, je pense genre, c'est soit, là, on est qu'à 85, c'est soit 84 ou 86, tu comprends?
Mais je pense, j'ai l'impression que c'est en 87, là. Moi. Avant... Caroline, tout le monde y va avant, on dirait.
OK, ben on y va avant avec nos auditeurs.
On y va avec Alexandre Arsenault, P.O. Loyer. On y va avant.
Vous dites avant?
Ouais.
Pour la partie parfaite. Trois bonnes réponses sur trois. On valide.
Alexandre avait raison, hein?
Effectivement, il y en a plein qui l'ont. C'est sorti en 1987.
Ah, je le savais!
Ah, c'est ça.
Vous aviez raison, vous étiez... Et il y a un remake, semble-t-il, qui est actuellement en préparation. Donc, bravo. Quand même, deux bonnes réponses sur trois.
Mais on s'entend que...
Vous pouvez partir la tête haute pour finir votre semaine de relâche.
Quand même, merci beaucoup.
Le meilleur des comiques, sur demande.
Debout les comiques! Cool, hey. Sinon, on est en plein... On se déchire,
oui,
là.
Tellement. Il y a plein de gens qui se prononcent par rapport à notre grand tribunal populaire. Est-ce que c'est mieux de sortir avec un cuisinier ou de sortir avec un ou une humoriste? Quel est le meilleur deal dans un couple? On pose cette question-là parce que toi, Martin, tu es toi-même humoriste. Ouais. Et Valérie fréquente un cuisinier. Elle est même mariée avec
mariée avec.
Et là, vous m'avez surprise ce matin parce que vous êtes allé au contraire de ce que j'aurais pensé. Je pensais que, Martin, tu défendrais les humoristes, mais tu dis à tout le monde de ne pas
persiste,
aller là.
Je
puis
persiste.
Toi, Valérie,
c'est trop compliqué, un chef.
C'est parfait.
C'est vrai que c'est cool, c'est glamour, mais c'est trop compliqué.
Il y a Isabelle Messier qui dit clairement, t'es humoriste, j'ai besoin qu'on me fasse rire dans la vie. C'est ce qui me charme chez un homme. Moi, souper, là, des toasts, ça me fait pas peur. Tant que tu me fais rire pendant que tu les beurres, je suis comblée.
Voilà.
Sinon, on va aller au téléphone parce qu'il y a des auditrices qui veulent se prononcer. Il y a France Bezot qui est là de Lavaltrie. Allô, France?
Allô?
France, toi, tu irais avec un humoriste, c'est ça, hein?
Ah, c'est clair, définitif. Premièrement, je vais faire manger moi-même. Et deuxième chose, c'est que l'humoriste, quand tu sors avec, ben lui, il connaît plein d'autres humoristes, fait que tu peux aller voir plein de shows.
Ah oui!
ça fait la coche.
Ça, je suis obligé de te dire que t'as raison.
C'est exceptionnel.
T'as vraiment raison, je peux aller voir les shows que je veux parce que je suis ami avec tout le monde ou à peu près. T'as raison, on a certains privilèges comme ça. Je te donne le point, France, quand même. C'est pas négligeable. Yes. C'est pas un chef qui aurait ça, là. Mais le chef, en même temps, France, il a la même affaire dans le milieu de la restauration. S'il y a un restaurant que t'as le goût d'essayer, j'ai probablement des plugs pour aller manger les plus belles tables.
C'est sûr. Sauf que les shows d'humour ne te font pas prendre de poids. Puis les restaurants, oui. Voilà.
Exactement.
On t'embrasse, France. Merci beaucoup. Il y a Véronique aussi qui est là et qui veut sauter dans la mêlée. Véronique Jean, salut.
Oui, bonjour.
Véronique, toi, t'es plus team cuisinier. Yes.
Ah oui, vraiment. Premièrement, un cuisinier, t'en as besoin 365 jours par année. Un humoriste, c'est le fun, mais pas à tous les jours.
c'est vrai que c'est un bon point.
C'est quand même ébranlant comme argument. Et pour vrai, on néglige beaucoup le côté créatif aussi des chefs cuisiniers qui peuvent nous faire découvrir, qui peuvent vraiment... C'est utile, c'est créatif, c'est un voyage que tu fais constamment avec lui. On peut se faire une toast de temps en temps aussi, là, mais moi, je pense que j'étais à la même place que toi, Véronique. Chef cuisinier, c'est all the way. Bonne journée,
Véronique. Mais les humoristes, en plus, ils ont des spleens d'humour. C'est dur à gérer, ça, tous les jours.
Ah, oh, c'est bon!
De quoi tu parles, là?
Bon, je ne sais pas, mais quand j'écoute vos podcasts, là, vous êtes tout en dépression.
T'as tellement raison!
En fait, mais t'as raison, mais c'est juste le contraste et de l'image qu'on projette et du métier qu'on fait. Moi, le matin, là, je sors d'ici, puis je ris à toutes les 4 minutes, même pas, là, tu sais. À toutes les minutes, je ris à la radio, j'ai vraiment du fun. Quand j'arrive chez nous, t'as raison, Véronique, j'étais un peu en spleen.
Ah oui, pour vrai.
Je regarde par la fenêtre.
J'ai des bons arguments, j'aime ça.
Je fais comme, c'est quand que ça commence mon cours de cuisine.
Ça me donne presque le goût de changer, mais non.
Salut, Véronique!
bonne journée.
Bye-bye.
OK, on s'en va en musique, ouais, mais après, ouais, on va revenir, puis je voudrais savoir, moi, j'entends beaucoup d'histoires sur les humoristes, ouais, comme quoi les humoristes en tournée, ça trompe leur blonde à tour de bras. Lequel est le plus dangereux, de se faire tromper par un cuisinier ou de se faire tromper par un humoriste? Vous allez devoir vous commettre, ça, les deux, là.
Je pense qu'un cuisinier est capable de faire...
On verra.
Le meilleur des comiques, sur demande.
Eh, hey, mon Dieu, la messagerie texte est enflammée ce matin. J'ai pas vu sur Facebook.
Hey, le Facebook, c'est incroyable. Je veux dire, il y a tellement de gens qui se prononcent, là. Puis je te dirais que c'est très équilibré sur le Facebook de C'est quoi. On sait pas si on aime plus avoir un chum ou une blonde humoriste ou cuisinier.
Ou cuisinier, puis là, t'as lancé le cliché de l'humoriste qui trompe sa blonde
pour
en tournée.
Pour vrai, j'ai l'impression que pour ce qui est de l'infidélité, les humoristes vont être, tu sais, plus performants. Et que les cuisiniers vont être plus raisonnables. Mais là, c'est un gros préjugé que j'ai. J'aimerais ça que vous me le confirmiez. Valérie, t'es-tu déjà fait tromper, Benoît?
Non, mais je comprends le préjugé, par exemple, c'est pour vrai. Et je suis humoriste, moi, puis on est un point de mire, c'est certain. Mais la vraie affaire, là, c'est que moi, en tournée, là, depuis 30 ans presque que je fais de la tournée, savez-vous combien de fois je suis sorti après un show?
OK, mais toi, d'abord, je sais que tu sors jamais.
Mais c'est ça.
Mais c'est j'ai comme sorti si c'est une pas fois,
mon semaine, il y a 5 ans, il n'en est pas revenu encore. Il fait comme, t'es sûr que t'es sorti l'autre jour?
C'est la raison pour laquelle j'ai choisi l'humoriste, parce que le chef cuisinier, je vous le dis, en restauration, c'est un milieu de party. En restauration, tu finis ton chiffre, il est minuit le soir, puis toi, c'est comme quand nous, on finit à 17 heures de travailler,
en même temps,
où on va prendre un apéro.
Il est obligé à des mesures d'hygiène que l'humoriste n'a pas à suivre, là.
Ça, c'est sûr.
Mais tu fais pas ça sur n'importe quelle surface dans la cuisine.
Tu sais, quand tu vas prendre l'apéro après ta job, le chef cuisinier, c'est à minuit qu'il prend son apéro. Ouais. Fait que souvent, ça part sur des grosses dérapes.
Je pense
qu'il y a plus de chances, le cuisinier, de te tromper
que l'humoriste. Je pense que c'est un mauvais élément dans le débat, parce que si tu veux tromper, peu importe le métier que tu fais, est-ce qu'un pilote d'avion, c'est pire?
La tentation est dans le cliché. Je comprends que c'est dans le cliché,
mais en tout cas, moi, le chef, je reste là-dessus pour vrai. Il y a quelque chose qui, moi, quand on me prend avec le ventre en partant, là, et si j'étais ma blonde, je sortirais avec un chef. Ou je me ferais suivre des cours de cuisine.
Mais tu vois, moi, j'aime bien l'argument de Jessica Maheu sur le Facebook de C'est quoi, qui dit « La vérité, c'est que les deux travail de soir et de fin de semaine. »
C'est ça.
Fait que ça, déjà, c'est un point qui est négatif.
Mais la raison
pour laquelle je choisirais l'humoriste, c'est que c'est pas tous les soirs. Mettons que ton chum est en tournée, là, mais peut-être qu'il va aller faire, je sais pas moi, 3-4 représentations par semaine.
Okay.
Et là, si c'est le cas, c'est beaucoup moins qu'un chef cuisinier. Un chef cuisinier, la vérité, c'est que c'est continuellement. La fin de semaine, quand tu voudrais faire des soupers avec tes amis, tu peux pas. Ton chum, il cuisine pour les restos, pour tes amis qui vont aller manger au resto.
Mais ton chum est à 4 minutes de char. Moi, quand je t'offre Saint-Pierre, pour vrai, en chaud, là, puis je suis pas là le soir, puis j'étais à 11 heures de char, mettons, c'est d'autres inconvénients quand même. Moi, je pense que le chef, c'est vrai qu'il travaille le soir, mais ça, un horaire, maintenant, on s'habitue, puis la vie s'installe. Mais il est à 4 minutes de chez vous, tu comprends? Ou en tout cas, je pense qu'on peut être plus loin, mais on n'est pas en tournée quand on est chef, là.
C'est clair, t'as entièrement raison.
Mais ceci dit...
Moi, je suis plus entourée d'humoristes, puis on dirait que les humoristes m'intéressent zéro. Moi, je les trouve trop...
Je travaille avec deux humoristes.
Vas-y. Nécessairement, là. Mais je trouve que les humoristes, votre travail, c'est votre personnalité. Mm-hmm. Ce qui fait que vous n'avez pas le choix d'être très concerné. T'sais, ce que vous publiez sur les médias sociaux, il faut que vous soyez drôle si vous participez à un talk show, parce que sinon, ben, c'est des billets de moins pour votre affaire. Je trouve que
ils
sont très centrés sur eux. J'ai rencontré des humoristes qui n'écoutent pas aussi, là, qui vont toujours chercher à faire des blagues plutôt que d'être écouté puis de faire des blagues sur la conversation qui est en train de se dérouler. Des fois, ils veulent juste faire des... Mais là, je généralise, comprenez-vous? Et je connais moins de cuisiniers. Peut-être que les cuisiniers
plus
aussi...
Curieuse de ça.
Alors, je suis plus
curieuse. Mais attends, toi, Antoine, là, c'est un comique, ça. Puis il cuisine... Ça veut dire que toi, dans ta maison, mettons, là, si t'avais à sucrer une partie de sa personnalité, Antoine n'est plus jamais drôle ou Antoine cuisine plus jamais. On va clore le débat là-dessus.
Ben, tu vois, tu me pièges parce que je préférerais qu'il soit poche en cuisine, mais qu'il continue de me faire rire.
Ah ouais, hein?
T'as raison. Mais en même temps, il est pas humoriste.
Non, je comprends.
C'est un geek, là. Il est un potiste. Il aime les échecs, il aime l'astronomie. Encore, je suis tellement des préjugés de dire que
Geneviève a dit, moi, je sortirais qu'aucun des deux. Horaires de marde, oublie ça.
Je change mon point de vue, j'aimerais ça avoir un médecin. Il y a tellement pas de médecins partout au Québec, là. Je dirais que ça serait le fun.
Mais on dirait que t'es sur une liste d'attente, on dirait.
Oui, c'est ça. Je suis attendre pour le médecin.
Pour plus de tes comiques, écoute 96.9 C'est quoi du lundi au vendredi dès 5h25 ou rends-toi sur c'est quoi.com.
C'est 23.